Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Après avoir consacré un épisode à John Dewey ou encore à Jean-Claude Chamboredon, nous avons souhaité consacrer une émission à une grande figure, un peu oubliée malheureusement de la recherche en éducation, disparue il y a 5 ans, Viviane Isambert-Jamati. Première femme à occuper un poste de chercheuse en sociologie, elle intégra le CNRS à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où elle s'intéressera d'abord au travail ouvrier et plus particulièrement au travail des femmes, marque de ses engagements politiques et féministes. Mais ce que nous retiendrons surtout ici est son rôle majeur dans le développement de la sociologie de l'éducation en France, dès les années 60 et jusqu'aux années 90 au moins. Sa carrière se développe en effet durant la période où la discipline sociologique a connu un développement considérable, avec la création par exemple en 1958 de la licence et du doctorat de sociologie, qui marque une rupture avec la discipline reine jusque-là qu'était la philosophie, période au cours de laquelle la recherche en éducation s'institutionnalise elle aussi avec la création des sciences de l'éducation comme discipline académique en 1967. Elle soutient sa thèse d'État en 69, avec « Crise de la société, crise de l'enseignement » récemment réédité par ENS Éditions, avant de quitter le CNRS et rejoindre l'Université Paris 5 alors, où elle crée un groupe sociologique de l'éducation associé au CNRS, aujourd'hui le CERLIS, le Centre de recherche sur les liens sociaux. Avec cette bifurcation, son activité d'enseignante et de directrice de thèse occupe l'essentiel de son temps, et elle a encadré plus d'une centaine de doctorats au détriment, comme elle a pu le dire ensuite, de ce qu'elle appelait sa fécondité directe, qui était la recherche. Parmi ses doctorantes et doctorants, on peut citer entre autres Agnès Van Zanten, André Robert, Martine Kéroubi, Yves Duterque, Catherine Gautrin et bien d'autres, mais aussi un très grand nombre d'étudiants étrangers. Et pour revenir sur son parcours et sur les apports de cette chercheuse sur la recherche en éducation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux chercheurs qui ont été proches de Viviane Isambert-Jamati et de son travail scientifique, à commencer par Jean-Yves Rochex. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis et membre du laboratoire CIRCEF-TESCOL. Et on vous doit en particulier le numéro spécial en hommage à Viviane Isambert-Jamati que vous avez coordonné pour la Revue française de pédagogie en 2020. Et puis nous recevons Philippe Vital.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sociologie à Aix-Marseille Université et membre du LEST. On vous doit et on vous avait reçu pour ça en 2022 l'ouvrage « L'école et les savoirs scolaires » et nous y reviendrons aussi, paru aux presses universitaires de Rennes. Et j'ajoute que vous êtes membre du comité scientifique de la revue Diversité publiée par l'IFE et ENS Éditions. Et comme chaque mois, nous retrouverons une chronique historique aujourd'hui proposée par Héloïse Marguerite, qui est étudiante à l'ENS de Lyon.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
Alors, la première question que je souhaitais vous poser à tous les deux est celle de la rencontre, finalement, avec à la fois la personne, cette chercheuse, et puis avec son travail. Alors, peut-être Jean-Yves Rochex, vous qui avez travaillé sur ce numéro spécial, vous avez pu explorer aussi à la fois son parcours, mais peut-être aussi cette personne, cette chercheuse. Est-ce que vous avez l'occasion de la rencontrer et de rencontrer à quelle occasion vous avez pu la rencontrer?
Alors, j'ai d'abord rencontré son œuvre. Moi, j'ai un souvenir très précis de la première texte, premier ouvrage de Viviane Isambert-Jamati que j'ai découvert. C'est l'ouvrage qui s'appelle « Culture technique et critique sociale à l'école élémentaire » qui est publié en 1984. À l'époque, moi, j'étais conseiller d'orientation. J'animais le collectif de conseillers d'orientation au sein du GFEN, entre autres avec des gens comme Yves Clos et autres. Et j'avais fait une note critique de ce bouquin, sans connaître évidemment Viviane Isambert-Jamati à l'époque. Et je suis, en relisant des travaux pour ce numéro spécial de la Revue française de pédagogie, je me suis souvenu par contre que j'avais suivi des cours de Madeleine Guilbert, qui était sociologue à l'Université de Tours.
Et avec qui elle a travaillé.
Avec qui elle avait travaillé dans son carrière de sociologie et de travail. Voilà. Après, j'ai lu d'autres choses de Viviane Isambert-Jamati, évidemment, et je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Je n'étais pas très proche de Viviane Isambert-Jamati, je suis très proche de son travail, peut-être par timidité. Alors, je sais qu'à l'époque, on avait fait un ouvrage collectif du collectif de conseil d'orientation que je lui avais envoyé sans avoir de retour. Je ne sais pas si elle l'a reçu, si elle l'a lu, peu importe. Et je l'ai rencontré au moment où je vais commencer à avoir des projets de thèse. J'étais allé la voir Elle m'avait reçu très très gentiment dans les locaux que son équipe occupait à l'époque, rue Serpente, dans le 5e arrondissement de Paris. Très très gentiment, puis on a continué à échanger. Et je l'avais revue au moment où, avec Martine Kerubi, que vous évoquiez tout à l'heure, nous préparions une note de synthèse sur l'éducation prioritaire. On était allé la voir et avec sa modestie légendaire, elle nous avait dit « Mais moi, je ne suis pas la personne idoine pour que vous devez consulter là-dessus. Je ne connais pas grand-chose. » Alors qu'elle avait publié, alors qu'elle avait initié un travail de recherche collectif auquel Agnès Van Zanten avait contribué, qui a été publié après sous forme de rapport sous les directions d'Éric Plaisance. Donc c'est une personne qui était toujours très modeste, qui disait toujours « Mais moi, je ne suis pas très, très compétente pour ça, je suis allée voir d'autres personnes, etc. » Et je l'ai revue assez régulièrement dans des travaux comme ça, ou dans des occasions de colloques, de manifestations scientifiques. Je me souviens avoir participé au colloque en hommage à Viviane quand elle a pris sa retraite, qui a été publiée après. Et puis, je l'ai revue après dans des circonstances un peu difficiles, au moment des obsèques de son mari. Voilà. Donc, on avait des rapports pas forcément très proches en termes d'amitié, mais je crois de grande connivence intellectuelle, puisque elle a pu, à plusieurs reprises, faire référence aux travaux que j'avais menés ou que nous avions menés dans le cadre de l'équipe ESCOL. Donc, il y avait vraiment des convergences fortes de travail, et quand elle est décédée, et que j'ai vu que personne n'en parlait, enfin, c'est quand même une des sociologues de l'éducation qui, à mon sens, est des plus importantes dans le travail de recherche en France. Elle est disparue en 2019 sans qu'aucun quotidien ne daigne écrire une seule ligne sur cette personne. Et j'ai trouvé ça tellement choquant que, dans le cadre de la Revue française de pédagogie, j'ai dit « on ne peut pas ne rien faire ». Et donc l'idée est venue de faire un dossier en reprenant un certain nombre d'articles peu connus, y compris certains que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai trouvés sur Internet. Et voilà un peu mon histoire avec Viviane Isambert-Jamati. Je suis assez content d'avoir fait ce travail-là et d'avoir donné à lire des textes qui étaient très peu accessibles à l'époque, quand on l'a fait.
Merci Philippe Vital. Alors, même question, cette rencontre, alors j'imagine aussi, comme pour Jean-Yves Rochex, autour de l'œuvre plutôt que la personne d'abord.
D'abord autour de l'œuvre, et c'était lors de mes études à l'Université de Provence, qui est devenue aujourd'hui Aix-Marseille Université, puisque durant les cours de licence 3, Roger Establet, qui faisait un cours de sociologie de l'éduc, il ne disait pas éducation, il disait sociaux de l'éduc.
Et donc il fait la préface de la réédition de sa thèse d'État.
Et qui donc avait mis au programme, c'était obligatoire, une lecture obligatoire, les savoirs scolaires. Donc j'ai d'abord rencontré son œuvre, la personne, avec une affection totale de Roger Establet pour Viviane Isambert-Jamati, ça se sentait en cours. Je l'ai rencontré lors d'un colloque organisé à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, organisé par Nicole Ramonino et Pierrette Vergès. C'était en 2003. J'ai eu la chance de pouvoir organiser là un débat. Elle y était. J'avais d'ailleurs abordé la question de la pédagogie et de la sociologie en renvoyant Jean-Claude Forquin. Et donc, il y a eu un ouvrage qui a été édité, Le Français hier, aujourd'hui, sous-titré « Études offertes à Viviane Isambert-Jamati », publié en 2005. Vraiment, je recommande l'introduction qui est faite par Viviane Isambert-Jamati. C'est un texte remarquable, vraiment. Et j'ai eu enfin la chance de pouvoir échanger avec elle durant mon habilitation à diriger des recherches. Ça devait être en 2015, puisque j'avais des questions à lui poser sur la sociologie des curricula. Et j'ai eu la chance, je sais pas, j'ai dû passer peut-être 6 heures au téléphone avec elle à différents moments. Elle était en maison de retraite et c'était extrêmement touchant parce qu'elle avait une vivacité d'esprit, mais une gentillesse vraiment à mon égard. Et c'était entrecoupé par « je suis désolé, l'infirmière arrive ». Et je dois dire que je regarde vraiment ça avec une générosité totale en dehors de la qualité de son œuvre.
Alors, je propose qu'on redéroule le fil un peu chronologique de sa vie. On va remonter aux origines de son parcours avec la chronique d'Héloïse. Donc
Viviane Isambert-Jamati, née en 1924, dira de sa famille qu'elle est éducogène, comme si l'appétence pour les études intellectuelles était inscrite dans sa filiation. De fait, la jeune femme étudie la philosophie à la Sorbonne jusqu'à obtenir son diplôme d'études supérieures. Elle est active au sein de la jeunesse étudiante chrétienne. Et sous l'occupation, elle s'engage comme agente de liaison dans le réseau de la résistance Périclès. Là, de sa rencontre avec des ouvriers et des ouvrières serait né son intérêt pour la sociologie, en tant que la discipline permet d'étudier les conditions de vie et de travail effectives des ouvriers. C'est ce qu'elle confiera à Marlène Kakuobito et Rebecca Rogers lors d'une interview en février 2007. Des rencontres intellectuelles affermissent la vocation de Viviane Isambert-Jamati pour la sociologie, celle de Maurice Halbwachs, dont elle suit les cours en 1942 et 1943, ou encore celle du sociologue Georges Friedman. Viviane Isambert-Jamati ne passe pas l'agrégation, nul besoin, semble-t-il, puisqu'à 24 ans, en 1947, sans avoir effectué de thèse, elle entre sur dossier au Centre d'études sociologiques du CNRS. Lors d'un entretien avec Elisabeth Pradoura dans les années 1980, elle évoquera la difficulté de se faire une place à égalité des hommes dans une telle institution. Mais par son travail assidu, elle s'affirme légitimement comme une chercheuse à plein temps. Elle passe outre la difficulté de mener de front vie de famille et vie professionnelle, ainsi que le fait d'être la fille de son père, Georges Vincent Jamati, lequel a fondé la section des sciences humaines du CNRS. Dès 1947, la jeune femme travaille sur l'industrie horlogère de la région de Besançon, sous la direction de Georges Friedman. Elle est une sociologue du travail. Elle confiera observer, s'entretenir avec les ouvriers sans tenir compte de leur genre. L'année 1950 est un tournant. Installée à Paris, Viviane Isambert-Jamati collabore avec la sociologue Madeleine Guilbert sur la question du travail à domicile des femmes. Le choix d'un tel sujet d'étude est féministe. Je cite « Nous choisissions précisément un domaine dans lequel la situation de ces femmes, théoriquement femmes au foyer, était vraiment très exploitée, puisqu'on leur disait « Grâce à cela, vous allez pouvoir rester chez vous ». Or, c'était très, très mal payé. N'est-ce pas du féminisme que de pointer comment on exploite la position dominée et intériorisée comme telle des femmes dans la vie sociale pour les faire travailler à bas prix ? À partir de cette étude, une veine féministe s'est mise à pulser dans les recherches sociologiques de Viviane Isambert-Jamati. À la toute fin des années 1950, elle enquête sur l'absentéisme féminin dans le milieu du travail. C'est une cause d'exploitation et de dévalorisation des femmes, certains patrons ne voulant pas employer de femmes au motif qu'elles s'absenteraient. Viviane Isambert-Jamati montre que, à qualification égale entre hommes et femmes, le nombre d'absences est sensiblement le même. Simplement, la durée des absences varie, les femmes s'absentent plus longtemps. Le facteur de la pénibilité du travail entre aussi en jeu, puisque les femmes qui s'absentent sont celles qui sont peu qualifiées. Viviane Isambert-Jamati dénonce la surexploitation des femmes en tant que telles par le patronat, mais elle ne se dit pas militante féministe. Je cite à nouveau « Et ce qui était absent chez nous, c'était l'idée que les femmes doivent absolument se battre par elles-mêmes. Nous pensions qu'hommes et femmes avaient à se battre ensemble contre le patronat. » À l'époque, certains sociologues du CNRS manquent de considération pour ses travaux. Peut-être est-ce parce qu'elle est une femme, ou encore pour son féminisme, ou encore pour son militantisme syndicaliste et politique, puisqu'elle est sympathisante communiste. Elle expliquera que cela énervait Friedman de voir ces gens qui avaient des positions qui risquaient de nuire à leur objectivité. Pour Viviane Isambert-Jamati, la sensibilité politique d'un sociologue ne nuit pas nécessairement à sa pertinence scientifique. Elle peut simplement influer sur le choix de son objet de recherche.
On voit que Viviane Isambert-Jamati a fait ses débuts dans la sociologie du travail. Comment en est-elle venue à ce qui fait aujourd'hui sa postérité comme sociologue, la question de l'éducation.
Dès 1959, partant de l'hypothèse que les femmes seraient éduquées à la soumission, ce qui se traduirait jusque dans le milieu du travail, Viviane Isambert-Jamati entreprend d'enquêter sur l'éducation des filles et des garçons dans les familles. Un tel travail a cependant des extensions dans le système éducatif. La chercheuse se rend compte qu'elle n'en a qu'une connaissance superficielle et abandonne cette recherche. Ainsi s'impose, tout naturellement, une inflexion de Viviane Isambert-Jamati vers la sociologie de l'éducation. Comme elle le dira, elle a ensuite glissé, sans davantage de rupture, des différences entre garçons et filles à l'éducation en général. Si l'on veut bien considérer ses antécédents familiaux, on peut se dire que Viviane Isambert-Jamati devait en venir aux questions d'éducation. Sa famille paternelle est constituée de générations successives d'enseignantes et d'enseignants. On accordera à cette particularité filiale le poids que l'on voudra. Toujours est-il que l'intérêt de Viviane Isambert-Giametti pour les questions d'éducation s'inscrit dans un parcours sociologique cohérent et problématisé.
Merci Héloïse. Alors Jean-Yves Rochex, est-ce qu'on peut en faire finalement, si on regarde le parcours, qui a peut-être plusieurs niveaux d'analyse, une sorte, comme Héloïse le dit un peu à la fin, une sorte d'héritière d'une famille qui, depuis plusieurs générations, est dans le milieu de la recherche et s'intéresse aux questions d'éducation?
Oui, elle est héritière en plusieurs sens du terme. D'abord parce qu'elle vient d'une famille où le fait de faire des études prolongées pour une femme est une évidence, ce qui n'est quand même pas, à l'époque, une évidence pour tout le monde. Et puis, elle est, on pourrait le rappeler, elle est la petite nièce de Gobelot, qui est professeur de philosophie nommé à Bastia et qui est l'auteur de ce qu'on dit parfois être un des premiers ouvrages de sociologie critique de l'éducation, qui s'appelle « La barrière et le niveau », qui a été réédité il y a quelques années avec une préface de Bernard Lahire. Donc, elle est vraiment, pour dire, baignée dans cette affaire-là. C'est effectivement l'insatisfaction par rapport aux travaux sur le rapport peut-être spécifique des femmes au travail ou à la soumission, entre guillemets, qui l'amène à partir d'une enquête qu'elle n'a jamais publiée, dont elle dit qu'elle était insuffisante et qu'elle avait menée
en se débarrassant même de l'ensemble
de ces données, voilà, qui avaient été recueillies, si mes souvenirs sont bons, avec des collègues de l'INETOP, hein, donc avec qui elle collaborait, qu'elle en vient à la sociologie de l'éducation. Et il y a une ironie de l'histoire, c'est qu'elle partait de l'hypothèse de la soumission des femmes, effectivement, à l'époque. Et en revanche, si mes souvenirs sont bons, dans les années 80, elle publie un article, une réponse à un article de Roger Stablet, donc qu'on évoquait tout à l'heure, sur la soumission des filles. Stablet faisant de la soumission des filles une hypothèse d'explication de la meilleure réussite des filles à l'école de ces dernières décennies. Et elle critique cette hypothèse-là chez Stablet dans un espèce de retour, y compris sur sa... Elle ne revient pas là sur sa propre trajectoire, mais on peut dire qu'il y a... C'est un témoignage de la vivacité de sa pensée, de sa mise à l'épreuve d'hypothèses théoriques et de travaux empiriques, ce qui a toujours été le cas chez elle, où élaboration théorique et travail d'enquête n'était jamais séparée, n'était jamais distincte. C'est-à-dire, elle n'était jamais dans ses travaux empiriques dans l'idée de ou dans une posture d'illustration d'une thèse ou d'une théorie déjà élaborée que les enquêtes ne feraient que renouveler, que réillustrer. Mais au contraire, c'est toujours l'idée d'une théorie générale des processus d'éducation et de socialisation qui est à mettre à l'épreuve et à réélaborer sans cesse à l'épreuve des processus éducatifs et de leur évolution, de leur histoire.
Et c'est finalement quelque chose qu'elle va aussi faire dans sa thèse d'État, quand elle va étudier ses discours de remise de prix pour les sortants du lycée de garçons, puisque voilà, mais sur un empan d'un siècle quasiment. Et finalement, elle va essayer de lire la situation comme sociologue de l'école, mais à l'aune de ce qui se joue en essayant depuis un siècle, en essayant de voir les permanences qui durent et finalement, voilà, qu'est-ce qui bouge en identifiant plusieurs périodes, mais l'époque dans laquelle elle se trouve au moment où elle fait ce travail-là.
Absolument, et elle place d'ailleurs explicitement ce travail-là dans la filiation du Durkheim, de l'évolution pédagogique en France. Et donc, c'est une des caractéristiques de son travail, une des lignes de force, on pourrait dire. Moi, j'ai essayé d'en dégager trois, mais la première, c'est un intérêt pour une approche socio-historique des continuités et des transformations du système éducatif en rapport avec les évolutions des formations sociales. Donc, elle est très durkheimienne de ce point de vue-là, même si elle est beaucoup plus sensible que Durkheim à la question des inégalités sociales, et peut-être moins à la question de la cohésion sociale, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est ce qui la différencie peut-être d'un certain nombre d'autres sociologues de l'éducation, et ce qui la rapproche d'autres, en particulier en France, la tradition, ce n'est pas seulement Durkheim, c'est Pierre Naville, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle aussi, non seulement Friedman, mais et Pierre Naville, qui est aussi passé de la sociologie de l'éducation à la sociologie du travail. Non, il a fait le parcours inverse, on pourrait dire. Et puis aussi du sociologue britannique Basil Bernstein, qui est exactement sur ce même type de posture, quoi.
Voilà, et donc du coup, Philippe Vital, sur cette filiation, on pourrait dire, avec d'autres chercheurs, alors plus anciens comme Émile Durkheim ou... j'allais dire presque contemporain que serait Bernstein, on voit bien qu'il y a des elle est pas toute seule, elle n'est pas isolée de ce point de vue-là. Elle s'inscrit bien à la fois dans d'autres, dans la continuité d'autres, et en même temps en connivence avec des chercheurs peut-être pas très connus en France à cette époque-là, mais sur lesquels elle va se retrouver de la connivence elle-même dans sa réflexion.
Alors, chez Durkheim, c'est évident, parce que dans l'évolution pédagogique en France, Durkheim est assez silencieux sur la réforme de 1902. Moi, je ne suis pas assez durkheimophile pour savoir quelle est la raison. Est-ce qu'il considérait que les agrégatifs, en 1904, connaissaient cette réforme? Est-ce qu'il se disait...
Oui, parce que c'est des cours qu'il donnait...
En 1904, à partir de 1904, voilà, à la Sorbonne. Est-ce qu'il se disait qu'il n'avait pas assez de recul? Mais elle commence précisément là où Durkheim s'arrête. Et où il y a une filiation très très forte. Les inégalités, moi je dirais quand même que dans l'évolution pédagogique en France, il y a quand même une sociologie des inégalités chez Durkheim. Il suffit de lire chez, par exemple le chapitre sur les jésuites qui est exemplaire. Mais là où, alors l'évolution pédagogique en France a été donnée le titre par Alvax et Louise Dreyfus-Durkheim. C'est pas Durkheim qui avait donné ce titre-là.
Mais
ce côté, voilà, ce côté évolutionniste, je dirais peut-être que l'apport de Vianney-Zambert Jamati, il est celui d'une variation, davantage sur les airs que Durkheim, mais c'est un cours. Donc peut-être qu'aussi, il devait procéder par étapes. Donc la filiation durkheimienne est liée. La filiation avec la sociologie britannique est liée fortement, bien plus après dans les savoirs scolaires, mais dès sa thèse là, donc, de 69 et qui est éditée en 70, il y a déjà là l'empreinte de Bernstein et de ses premiers textes, puisque Vianney-Zambert Jamati fait la recension dans la Revue française de sociologie de l'ouvrage de Halsey, Flood et Anderson, Education, Economy and Society, et il y a
un... Qui
date de 1961, dans lequel Basil Bernstein est édité. Et ce texte-là, c'est Social Class and Linguistic Development, A Theory of Social Learning, dans lequel on a déjà là langage restreint, etc., langage élaboré, la pédagogie qui est invisible, l'implicite de Bourdieu et Passeron, qu'elle va réutiliser. Donc la filiation, elle est là, elle est claire, mais je crois que ce qui réunit Bernstein et Vianney-Zambert Jamati, c'est Durkheim.
Parce qu'on voit quand même, elle se pose dans cet ouvrage, la question de... On est dans les années 60, hein, de la question du lycée, de l'élitisme, de l'élite, et des questions d'ouverture ou de fermeture, et de qui est porteur de quoi. Est-ce qu'il y a quand même, autour de la question de cette question de sociale, des inégalités, mais aussi la question qui va l'occuper ensuite des inégalités et de l'échec scolaire, comme on disait aussi à cette époque, est-ce qu'il n'y a pas ce trait-là, cette préoccupation en tout cas, d'essayer de débusquer les raisons pour lesquelles l'échec scolaire, ou en tout cas la difficulté scolaire, voit le jour dans l'école française?
Il y a cette préoccupation et il y a le souci de travailler explicitement les médiations. Voilà. Et elle dit explicitement, si je peux permettre une citation, c'est dès 1969. Hein, donc, elle écrit ceci, hein, donc... La détermination des liens entre l'état d'une structure sociale et l'état du système scolaire qui lui correspond est sans doute le problème central de la sociologie de l'enseignement, mais le moins avancé. Affirmer globalement que l'école est à la fois le reflet de la société et le moyen de consolider son ordre est facile, mais il est beaucoup plus ardu d'aller au-delà des correspondances approximatives et de mettre au jour les médiations. Et cette question des médiations, ça va être au cœur de son travail, à la fois dans le regard socio-historique sur les évolutions, les transformations du système éducatif, mais aussi en regardant ce qu'elle appelle les transformations du système éducatif, des transformations de surface, alors le terme surface, on pourrait en discuter, mais aussi un autre axe de son travail qu'elle disait plus en profondeur, c'est de regarder les propriétés sociales, les pratiques, les représentations, les modes de rapport à leurs élèves, des enseignants, des différents corps enseignants, hein, parce qu'elle parle des enseignants et des corps enseignants au pluriel, en faisant un travail sur la différence entre primaire et secondaire, et de regarder les médiations de cette affaire-là, comment ça se produit, comment ça se reproduit, mais avec un trait d'union. C'est-à-dire qu'on voit bien, là, il y a une critique en filigrane, et parfois elle n'est pas en filigrane, d'un usage des théories de la reproduction, qui est ce que moi j'appelle un peu les usages ou les thèses à tous les coups l'on gagne, c'est-à-dire où on part d'une hypothèse qui est pratiquement une conclusion a priori, et on va chercher à illustrer la thèse, elle n'est jamais dans cette posture-là. Elle est toujours dans le souci de mettre au jour des médiations en se disant que, puisque le système éducatif comme les formations sociales sont en perpétuelle transformation, alors ce travail de mise au jour des médiations n'est jamais achevé, il est toujours à remettre à l'ordre du jour. Et c'est un souci qu'elle a de manière très très forte, qu'elle partage avec Bernstein, et la même critique, Bernstein est plus explicitement critique des théories de la reproduction et de leurs usages un peu mécanistes, quoi. Et ce qui définit aussi Viviane, je trouve, de manière très forte, et aussi on retrouve ça chez Bernstein, mais un peu autrement, c'est sa prise au sérieux de ce qu'est son objet. Quand elle parle d'éducation, elle n'est pas dans l'élaboration ou l'application d'une théorie sociologique générale à une activité sociale particulière, comme on pourrait penser d'autres, les théories de la distinction, par exemple, ou de la reproduction, on pourrait voir que, ou même les théories de l'expérience chez Dubé, ou la théorie de la sociologie de l'expérience, elle est appliquée à l'école par Dubé, sans forcément que Dubé s'intéresse spécifiquement à ce qu'est l'école comme institution
depuis l'intérieur.
Spécifique, depuis l'intérieur, quoi. Elle prend toujours au sérieux cet objet qu'est l'institution, dans sa fonction de transmission, et dans la prise en considération du fait que la transmission culturelle, la construction de savoir par les élèves, c'est aussi, ça n'est pas simplement une construction sociale et un vecteur de reproduction, de domination sociale, voire de disqualification culturelle, mais c'est aussi un vecteur de conquête de puissance. Elle le dit il y a plusieurs fois, elle utilise de manière récurrente, dès le début de ses travaux sur l'éducation, le terme de puissance, les savoirs, confère à ceux qui les acquièrent une puissance d'agir et de penser. Et donc, elle est à la fois dans une approche relativiste au sens méthodologique du terme, comme le font tous les sociologues, et en même temps, elle n'est jamais dans un relativisme ontologique sur la question du savoir et sur la question des apprentissages. Et ça, c'est une particularité, c'est une originalité profonde en sociologie et éducation, particulièrement les années 60 et 70. Rappelons qu'elle co-dirige avec Bourdieu en 67-68 un numéro double de la Revue française de sociologie qui remet à l'ordre du jour la sociologie d'éducation en France, quoi.
Est-ce que c'est une manière de définir un petit peu, comme le vient de le faire Jean-Yves Rochex, la sociologie des curricula?
Oui, l'environnement épistémologique que vient de souligner Jean-Yves Rochex, il est là. C'est une sociologie relationnelle qui est là bien avant l'heure. Et une sociologie qui s'intéresse à un objet, aujourd'hui on parle tellement des subalternes, studies, des objets subalternes, s'interroger dès la fin des années 60 à des discours d'enseignants, à des représentations d'enseignants, là où l'heure était quand même très positiviste, où on est dans l'école de la reproduction à des analyses factorielles de correspondance, s'intéresser à la culture scolaire par le discours des enseignants, en les prenant au sérieux et en faisant une analyse de contenu, cette fois chiffrée. C'est une invention, mais vraiment remarquable, parce que ce n'était pas fait jusqu'alors. Hein, il suffit de feuilleter l'ouvrage pour voir la manière dont elle traite des airs, ce qu'elle nomme les airs, pour traiter,
E-R-E.
Pour traiter des discours. C'est assez fabuleux. Et oui, prendre comme objet des discours d'enseignement, s'interroger sur la structure d'enseignement, sur les savoirs, mais bien sûr, c'est une sociologie du curriculum qui ne donnait pas son mot, mais qui est pleinement dans cet héritage, si je puis dire, puisque quand même Knowledge and Control de Michael Young, qui nous réinaugure après Durkheim la sociologie des curricula, c'est 1971.
Et on le retrouve dans le travail, finalement. Alors moi, j'avais noté un article qui m'a beaucoup plu, de 85, qui s'appelle « Les primaires, ces incapables prétentieux », où finalement, elle essaye de... À la fois, on retrouve le côté je parcours l'histoire, je remonte dans le temps, pour voir aussi les permanences des débats, et pour montrer que le débat d'aujourd'hui, c'est finalement un débat récurrent qui se pose depuis la fin du 19e, puisque c'était l'espace qu'elle a été observée. Et en même temps, de se dire, il n'y a pas les modernes et les anciens, il n'y a pas les innovants et les traditionnels, il n'y a pas la défense des savoirs d'un côté et ceux qui psychologisent ou qui prennent en compte les élèves et ainsi de suite. Et que finalement, il faut sortir de ces oppositions binaires et peut-être se poser la question, si on regarde la nature du problème, qui est peut-être celui de la difficulté difficulté ou l'échec scolaire, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il y a quelque chose qui se joue autour de l'implicite, autour de l'invisible, et on retrouve ces questions du curriculum, voilà, qui est travaillé aussi par elle et puis par d'autres, autour de ce curriculum visible, ce curriculum formel et invisible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche à ça aussi, ou cette attention à ça aussi ?
Alors, dans les savoirs scolaires, l'ouvrage, si on le feuillette, il y a curriculum formel, curriculum réel. Elle ne travaille pas sur le curriculum caché, qui, je ne peux pas débattre là-dessus, mais qui vient bien après, et qui n'est pas le fruit d'ailleurs de Knowledge and Control, qui n'est pas le fruit de Michael Young, qui n'est pas le fruit de Basil Bernstein, qui vient après, qui est un peu en vogue aujourd'hui, curriculum invisible, etc. Mais je pense que, en toute modestie de dire cela, mais qu'elle a raison de s'en tenir au curriculum réel, d'ailleurs que je nomme en acte, et pour l'anecdote, débattant avec elle, je lui ai justifié le terme d'en acte, et comme quoi elle pensait toujours à la recherche, puisqu'elle disait, la prochaine réédition des savoirs scolaires, je demanderai à changer le nom du curriculum réel, je mettrai en acte. Donc le curriculum en ce sens est bien là.
Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part l'intérêt effectivement pour le curriculum à la fois dans ses aspects prescrits, dans ses aspects mis en acte, dans des pratiques et dans des contextes différenciés. Et elle est une des premières, bien avant des travaux sur consécutifs à la décentralisation par exemple, elle est une des premières à dire le mythe de l'unicité de l'école l'unicité de l'école est un mythe, et à travailler sur des différenciations contextualisées
des
territoires, des pratiques, des modes de nomination des enseignants, des choses comme ça. Donc il y a une première chose là-dessus sur effectivement l'aspect invisible, on pourrait dire infrastructurel, des processus de production d'inégalités scolaires. Depuis les modes d'affectation des enseignants, leur représentation, leur grade différencié selon les contextes, jusqu'à leurs pratiques. Mais elle est aussi sur le fait que, dans cet article que vous évoquiez, sur les primaires, ces incapables prétentieux, dans un peu la déconstruction, alors, autant dans certains travaux, elle a travaillé à déconstruire le postulat selon lequel l'innovation serait automatiquement démocratisation, c'est ses travaux sur l'enseignement du français au lycée en particulier, sur l'enseignement, les activités d'éveil à l'école primaire que j'évoquais en commençant, mais elle est aussi dans la déconstruction du discours, on va dire, des années 80, sur le massacre des innocents, sur le désastre scolaire qui serait lié à l'inculture des enseignants du primaire, etc., dans lequel elle voit une sorte de mépris des élites de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pour lancer les enseignants du primaire.
À la publication d'un numéro d'Esprit ou du débat, le débat.
Le débat, voilà.
Qui était sorti juste avant.
Et où elle dit qu'il y a, alors elle reprend une formule de Jean-Claude Passeron sur le caractère ahistorique et asocial de la critique de l'école primaire, mais je crois qu'elle va plus loin. C'est-à-dire, elle dit qu'il y a une sorte de mépris pour la technique. Et il y a un texte peu connu, elle fait une recension dans l'année sociologique de l'ouvrage de Jean-Claude Milner, de l'école, qui est d'une férocité. Alors, elle est rarement polémique, Viviane. Mais alors là,
il y en avait eu un autre avec Franck Poupeau, dans mon souvenir, sur les sociologues d'État.
Aussi, je me souviens bien, parce que c'est moi qui lui ai commandé la note de lecture. Et en disant que, voilà, elle n'est ni légitimiste, ni populiste. Voilà. Cette critique de Milner, elle dit, c'est un mépris pour la technique. Et je crois qu'elle se retient de dire que c'est un mépris de classe. Voilà.
Parce que finalement, il oppose le lycée, le secondaire qui serait sur les savoirs et le primaire qui serait sur des choses de l'ordre de l'activité.
Milner dit même si la pédagogie s'empare des savoirs, c'est la mort des savoirs et de l'école. Voilà. Donc elle reprend ça en disant que c'est un mépris pour la technique. Et là, on voit la continuité avec ses préoccupations sur le travail. Parce que être d'un relativisme absolu en matière de travail, de sociologie du travail, c'est quand même très compliqué. Parce qu'il faut bien que les productions, j'ai travaillé dans mon expérience, j'ai fait un travail un peu marginal sur la production, sur l'industrie automobile. À la fin, je me souviens d'une réflexion d'un ouvrier de l'industrie automobile dont le travail, c'était de démarrer les voitures à la fin des chaînes pour aller les garer sur le parking. On peut croire que c'est un travail pas très enthousiasmant. Et dans l'entretien, cet ouvrier me dit, c'est un miracle et ça m'émeut toujours quand je tourne la clé et que ça démarre. Eh bien, il y a une effectivité, une objectivité du travail qui fait que si on est sociologue du travail, on ne peut pas être relativiste comme on peut l'être. À mon sens, on ne peut pas l'être, on ne doit pas l'être, mais comme le sont certains sociologues de la culture ou de l'éducation, en renvoyant l'ensemble des savoirs à un pur arbitraire, à de pures logiques de distinction. Et en ce sens-là, il y a sa filiation en sociologie du travail, mais il y a aussi ses liens de proximité professionnelle dans une ER de sciences d'éducation, alors, à la fois avec des étudiants qui sont des enseignants,
oui,
pour une large part,
dit,
ou oui. De futurs enseignants, puis aussi avec des collègues qui sont Georges Schneiders, qui est philosophe de l'éducation, Antoine Léon, qui vient de la psychologie et de l'orientation, ses liens avec Jean-Claude Forquin, son travail avec des collègues de l'INETOP, comme Maurice Reclin, Françoise Bachet, et c'est quelqu'un qui était à la fois attaché aux spécificités disciplinaires et très ouverte au travail interdisciplinaire, mais à condition que le travail interdisciplinaire ne soit pas la grisaille qui efface les spécificités disciplinaires.
Et je pense que j'avais noté dans l'introduction que vous faites au numéro de la Revue française de pédagogie sa participation à de nombreux comités et rapports, donc une vraie activité après, voilà, qui, autour de l'activité scientifique, hein, et notamment le rapport Carras de 83, où elle pose la question de la discipline et donc de l'interdisciplinarité. Et c'est vrai que l'éducation est toujours dans cet espace un peu de malentendu, où il y a des disciplines contributives, et donc je ne sais pas si elle a défendu le même principe de toute sa vie, mais elle avait tendance à dire que chacun doit rester dans sa discipline tout en participant peut-être à un travail collectif avec d'autres disciplines et d'autres chercheurs. Est-ce que c'est tout à fait ça, sa vision de la recherche ?
Je ne crois pas qu'elle dirait, je ne vais pas parler à sa place, que chacun doit rester dans sa discipline. Par contre, elle dit explicitement, en parlant des sciences d'éducation, elle est professeure en sciences d'éducation, mais de conférences en sciences d'éducation, elle arrive assez vite après la création des sciences d'éducation à Paris 5. Mais elle dit, elle tient pour le pluriel de sciences d'éducation. Disons, il y a des disciplines contributives à la recherche en éducation, et elle est très réticente aux migrations conceptuelles qui affadissent les concepts et qui fonctionnent comme des chevilles pour éviter de travailler, pour le dire vite. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, mais elle ne dirait pas chacun ses disciplines, elle est très ouverte aux collaborations interdisciplinaires. J'évoquais son travail avec des collègues de l'INETOP, qui sont des psychologues, hein, ou avec Antoine Léon, Antoine Léon a été oscillé aussi entre psychologie et sociologie, mais aussi, elle est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans des multiples comités de rédaction, comités scientifiques de colloques, etc., mais aussi, pas simplement dans le rapport Carras que vous évoquiez, mais dans sa contribution au rapport Godelier sur les sciences de l'homme et de la société. Et elle est l'auteur, avec Gérard Vergniaud, d'une proposition, et d'un chapitre dans ce rapport, d'une proposition pour la création au sein du CNRS d'une commission interdisciplinaire qui s'appellerait « Socialisation, éducation, formation ».
Manière d'institutionnaliser au niveau CNRS la recherche en éducation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est absolument vrai, c'est une proposition qui est restée lettre morte. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui un petit peu un réseau qui se crée au CNRS
thématique.
Sur les questions d'éducation, un réseau thématique. Voilà. Donc, elle est là-dessus. Et le rapport Carras, elle constitue une commission dans le rapport Carras, où elle mobilise Jean-Claude Forquin, philosophe, elle mobilise les historiens, les psychologues, je ne me souviens plus qui y avait, mais c'est un travail interdisciplinaire. Et donc, elle est très ouverte aux collaborations interdisciplinaires, mais à condition que les disciplines n'y perdent pas leur spécificité. Et elle est, encore une fois, réticente à la grisaille d'une certaine interdisciplinarité qui effacerait les contraintes, les apports et les limites de chacune des disciplines.
Je crois que c'est au niveau ontologique où Vianney Zambergiamati se refuse à une interdisciplinarité qui n'est qu'un mot. Hein, où on mélange les genres. Je pense qu'elle est tellement soucieuse de sa discipline, de ne pas pécher par sociologisme. C'est quand même pas mal, quelqu'un qui se méfie, qui a une réflexivité sur sa propre discipline, qui est dans un respect de la complexité du réel. Alors pas c'est les tartes à la crème aujourd'hui des théories de la complexité. Elle se dit, le réel est compliqué. Il faut de l'humilité vis-à-vis du réel, il faut faire de la recherche.
Et de la méthode.
De la méthode. Et sans tomber dans du misérabilisme, du populisme, tel que le décriront plus tard Grignon et Passeron dans Le Savant et le Populaire. Donc sans tomber là-dedans, je pense que les termes de processus, de combinaison de processus, de médiation, de relation, caractérisent pleinement sa sociologie. Et je me demande, en écoutant ce qu'on avance là, c'est si finalement elle est moins citée que ce qu'on pourrait l'espérer, comme Bernstein d'ailleurs, c'est parce que finalement, il ne cède pas à une facilité de sociologisme ou de relativisme pur. Et comme leur pensée est complexe, peut-être qu'elle a moins d'adhésion.
C'était une question que je voulais aborder avec vous aussi pour terminer cette émission autour de, à la fois, la richesse, on l'a vu, enfin... Un paradoxe quand même entre la richesse de son travail, comme vous venez de le dire, hein, aussi d'assumer la complexité, ou en tout cas de prendre en charge cette complexité-là pour comprendre les situations éducatives, et le fait que, voilà, il y ait peu de traces, en dehors du cercle académique, peu de visibilité. Jean-Yves Rochec, vous disiez qu'au moment de son décès, quasiment pas d'article, hommage suite à son décès. Voilà, c'est un vrai paradoxe quelque part, et pourtant elle reste toujours présente et une référence dans la sociologie de l'éducation, me semble-t-il.
De manière inégale, alors je dirais d'une part, ça, de manière un peu polémique, je dirais ça témoigne de l'inculture des journalistes, et en particulier des journalistes spécialisés, soi-disant spécialisés en matière d'éducation, c'est quand même qui ont un turnover dans la presse très très, parce que c'est une rubrique peu valorisée dans la presse, donc les gens tournent beaucoup, ils n'ont pas de culture en profondeur, quoi. Et dans la sociologie de l'éducation, son caractère très original, c'est-à-dire d'être à la fois pleinement sociologue et en même temps de prendre au sérieux son objet, et dans une posture qui doit beaucoup à sa formation philosophique, hein, c'est très fortement inspiré, le terme de puissance, il est très inspiré de Spinoza et de Marx, à l'évidence, quoi, qu'elle connaît très bien, elle dit qu'elle a passé une année à travailler sur Marx, hein, voilà. Et d'une manière absolument, elle fait un usage peu explicite de Marx et jamais dogmatique, mais toujours très fécond, très heuristique, y compris du point de vue de l'idée de cerner les contradictions dans les réalités sociales et les réalités scolaires. Et c'est pas si fréquent en sociologie de l'éducation, je l'évoquais tout à l'heure, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles sa postérité et sa connaissance est moindre que d'autres travaux ou d'autres auteurs bien connus, y compris dans des jeux de bascule entre les individualistes, les structuralistes, les ci, les ça, etc. Ça, c'est une raison. Et une autre des choses, c'est que beaucoup de ces textes sont publiés dans des revues
sont dispersés,
pas très connues. C'est pour ça qu'on a tenu à faire ce numéro-là en reprenant des textes qui n'étaient pas accessibles sur Percé ou autre. Moi-même, j'en ai découvert en faisant ce numéro-là.
Et même l'ouvrage sur les savoirs, ce qui est en fait un recueil d'articles.
Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui a eu le souci de faire carrière, ni de faire école au mauvais sens du terme, de développer des épigones. Elle a eu beaucoup d'étudiants auxquels elle a laissé beaucoup de liberté. On pourrait citer Régine Sirota dans ses doctorants aussi que vous évoquiez tout à l'heure. Mais je crois qu'elle a payé en partie cette ouverture et cette humilité par le fait que son œuvre demeure moins connue, voire méconnue, par rapport à d'autres qui, à mon sens, sont moins sociologues qu'elle et moins de l'éducation qu'elle, mais qui ont parfois pignon sur rue dans les médias, peut-être parce que les journalistes ne vont pas toujours voir dans l'histoire de la recherche en éducation.
Mais elle reste quand même très présente à l'université, dans les enseignements, dans les écoles doctorales,
Elle sera au programme de mon cours au semestre 2, et je recommanderai, je le dis sans flagornerie parce qu'il est en face de moi, le numéro de la RFP avec vraiment ce texte que je trouve très très intéressant de Jean-Yves Rochec, qui s'intitule « Hommage à Viviane Zamberg-Jamati, une sociologue de l'éducation sociale de son objet ». Je crois que là, quand même, on a un outil vraiment remarquable de texte, une introduction qui retrace bien la vie et l'œuvre de Viviane Zamberg-Jamati, et les liens sont là. Alors parfois ils sont méconnus. Écoutant sur le savoir puissant, actuellement Michael Young, qui est toujours vivant, qui travaille toujours, aujourd'hui son travail de recherche avec Joe Mueller notamment, Afrique du Sud, c'est sur le savoir puissant. C'est sur le savoir puissant. Comme quoi il y a des échanges intellectuels de débat pour des gens qui ne sont pas forcément en lecture les uns les autres, mais on va essayer de faire la médiation.
Mais sa méthode autour de regarder l'histoire, de donner, voilà, et de regarder la situation actuelle jusque dans les détails de ce qui joue dans la boîte noire de l'enseignement, de la pédagogie, donc faire quelque chose d'un peu global, est-ce que c'est encore une recherche qui se fait de cette manière-là? Est-ce qu'il y a encore de la recherche qui... Parce que je fais la parallèle avec l'émission qu'on a fait sur Jean-Claude Chobordon, où on trouve des sortes de filiations. Alors, en termes de lecteur, pour moi, hein, donc en termes de méthode, en termes d'écriture, on passe, j'allais dire, d'une discipline à une autre, quelque part, on fait de l'économie, on fait de l'histoire. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup moins ça aujourd'hui et qu'on segmente encore plus, pensant être plus précis et rigoureux.
Mais il faudrait faire un inventaire plus sérieux qu'on ne peut le faire là, des cursus dans les différents départements de sociologie, de sciences de l'éducation. Vous évoquez Champboredon, je crois que c'est un des sociologues effectivement moins connus que d'autres comme Bourdieu et Passeron, qui est peut-être le plus proche de Viviane Isambert-Jamati. Cette perspective de recherche, à mon sens, c'est pour ça qu'elle est importante, elle n'est pas forcément nécessaire dans chacun des travaux de recherche. Mais elle définit des pistes, des orientations de travail et les interdépendances entre orientations de travail qui doivent nourrir des collectifs de recherche. Et moi, j'ai été responsable d'un labo, je pense que c'est dans des labos que ces interdépendances entre orientations de recherche, éventuellement ces collaborations disciplinaires, c'est plus facile en sciences de l'éducation si on prend au sérieux le pluriel de sciences de l'éducation que peut-être dans des départements monodisciplinaires, mais il me semble que ça définit des pistes de travail, encore une fois, collectives. Et il ne s'agit pas de tout mettre dans un seul travail de recherche, parce que c'est infaisable, d'avoir à la fois du monographique très, très pointilleux, avec un grain très très fin, et de l'approche socio-historique sur un large pan, parce que sinon on passe sa vie et on finit jamais sa thèse. Voilà. Mais en revanche, dans des collectifs de recherche, dans des réseaux de recherche, ces dimensions-là, à mon sens, définissent des relations de travail entre labos, entre chercheurs, entre disciplines, qui, à mon sens, sont les seuls qui permettent d'aller au-delà de développements séparés de différentes recherches, de différentes disciplines, mais développements séparés pratiquement au sens de l'apartheid. Philippe évoquait l'Afrique du Sud, quoi. Mais c'est-à-dire de travailler sur les rapports d'interdépendance, quoi. Et Viviane a toujours fait ça. J'évoquais ses liens avec le travail de l'INSERP. Viviane Isambert-Jamati, comme son mari, François Isambert, qui était sociologue des religions, ont fréquenté pendant très longtemps le séminaire de psychologie comparative animé par Ignace Meyerson à l'École pratique des hautes études, en fréquentant, si on regarde la liste des intervenants et des participants à ce séminaire, c'est des psychologues, des artistes, des sociologues, des économistes, c'est des littéraires, des spécialistes d'études littéraires, c'est des psychologues, évidemment, puisque Ignace Meyerson l'était, et c'est un creuset des historiens, Jean-Pierre Vernant en était une des chevilles ouvrières, c'est un creuset de rapports d'échanges et de développement de relations d'enrichissement réciproque. Et elle dit, elle, à la fin, dans le texte qu'évoquait Philippe du colloque de 2003, qu'elle a toujours eu deux objets de travail, deux orientations de travail parallèles, qui étaient le travail et l'éducation. Mais je crois qu'ils ne sont pas simplement parallèles, ils sont interfécondants. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas l'éducation indépendamment de ce qu'elle a fait sur le travail. Et en retour, ce qu'elle fait sur l'éducation et la manière dont elle a animé l'équipe de recherche qu'elle animait à Paris 5, une équipe associée au CNRS, en particulier avec Lucie Tanguy, qui est une sociologue de l'éducation, qui est devenue sociologue du travail. On voit bien comment il y a des allers-retours entre ces deux champs sociologiques qui renouvellent aussi le travail de Naville que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, il y a un champ extrêmement important et qui renvoie aussi, je pense, à une conception, une position philosophique qui s'intéresse aux dimensions anthropologiques de ce que c'est que l'éducation. Pas simplement à la sociologie de l'éducation comme objet de recherche, ou à la psychologie de l'éducation, ou à l'histoire de l'éducation, mais à cette question que pourquoi sommes-nous obligés d'éduquer dans des sociétés de division, où la division sociale du travail règne, voilà. Et comment le faisons-nous ? Avec quels avantages et quels inconvénients, quel développement de puissance pour les uns et quel développement d'inégalité. Et elle a toujours une approche extrêmement dialectique. Hein, j'évoquais un article que je ne connaissais pas, où elle évoque l'école coloniale, où elle dit, voilà, une des contradictions de l'école coloniale, c'est d'avoir à la fois à transmettre des savoirs aux fractions inférieures des peuples indigènes pour qu'ils puissent participer à la gestion, en même temps ne pas leur en transmettre trop pour qu'ils ne contestent pas l'ordre établi.
Et on retrouve les histoires du pouvoir.
Et on retrouve l'histoire du pouvoir, on retrouve une filiation marxienne. Et elle est bien plus marxiste que bien des marxistes autoproclamés de l'époque ou d'aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cet échange. J'espère que ça aura permis à tout un chacun de mieux connaître cette sociologue, et c'était aussi une manière pour nous de lui rendre hommage avec un certain décalage, je le concède aussi. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration d'Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin. Au mixage, Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous en mars pour une nouvelle émission qui sera consacrée aux quartiers populaires et aux grands ensembles. Retrouvez ce podcast et tous ceux de Cas d'école sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon comme sur toutes les plateformes de podcasts.